Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Et si Jésus devenait notre coach, non pas un coach qui donnerait des méthodes de développement personnel, mais un accompagnateur aimant qui conduirait l'humanité vers le Père et l'inviterait ainsi à transformer le monde. Jésus, l'accompagnateur selon la perspective du royaume, le référent de tout coach, c'est le titre du livre de sœur Marie-Philomène Diouf. Bonjour ma sœur.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes religieuse de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, vous êtes bibliste, vous enseignez à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes aussi coach professionnel. Et merci d'être présente aujourd'hui dans Vivante Église.
Merci à vous Isabelle.
J'aimerais que nous commencions tout de suite cette émission par quelques mots sur le cœur de la mission de Jésus, parce que ça va permettre de peut-être de rassurer certains qui se diraient « Non, mais Jésus n'est pas coach, au secours, voilà. » Et donc, qu'est-ce que ça implique, cette mission, pour le lien de Jésus avec l'homme? Quelle est la particularité de la mission de Jésus?
Alors souvent, quand on pense à Jésus, on le voit comme le sauveur, le salut. Mais lui-même, il dit « Il faut que j'annonce le royaume et c'est pour cela que je suis venu. » Et donc, ce qui a vraiment inspiré le livre, c'est voilà, cette différence entre ce que nous pensons souvent que Jésus est envoyé pour faire, ou même son identité, et qui il est en réalité. J'avoue que oui, tout le monde parle de Jésus, Jésus, mais lorsqu'on s'arrête pour dire finalement qui il est, même dans les évangiles, lorsqu'on prend le cœur de notre foi, la résurrection, voilà, on entend juste « il est ressuscité ». Mais personne n'en est témoin finalement. Personne. C'est quoi la résurrection? Mais chacun raconte. Ce qui fait que Jésus devient comme une expérience. L'autre raconte, non pas pour me faire adhérer, mais pour qu'en entendant son témoignage, je puisse moi-même entrer sur un chemin de foi, faire mon expérience personnelle, commencer ma marche de croyante avec Jésus.
Et donc c'est justement pour commencer cette marche qu'il est important et intéressant de voir comment Jésus accompagne en fait chacun sur ce chemin. Quelle distinction faites-vous de prime abord entre un coach professionnel et Jésus?
Mais le coach professionnel s'arrête quand même au niveau humain. Il va aider la personne à aller chercher les ressources cachées en elle-même, non ? Pour les développer, pour se lancer vers l'avant. Tandis que Jésus va au-delà. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que de prime abord, il va toujours se mettre au niveau de la personne, non ? Mais toutes les scènes d'évangile montrent que quand l'expérience personnelle se vit avec Jésus, mais la personne arrive presque au même niveau que Jésus. Ça veut dire qu'elle va se mettre à annoncer la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que, sans être féministe, j'aime beaucoup l'expérience des femmes qui rencontrent Jésus, parce que nous sommes quand même dans un contexte où les femmes n'ont pas forcément cette possibilité d'aller proclamer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles ramènent les personnes à Jésus. Par exemple, la Samaritaine, on va en parler peut-être.
Oui. Oui.
Mais ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, elle est touchée par Jésus. Elle va appeler toutes ces personnes qui l'ont dénommée Samaritaine. Mm-hmm. Elle est anonyme. Elle les amène où? Au pied de Jésus. On peut se rappeler aussi l'histoire de Marthe et de Marie.
Les sœurs de Lazare.
Qui envoient un petit billet à Jésus avec « Voilà, celui que tu aimes est malade. Mm-hmm. » Mais il ne vient pas.
Ouais,
Lazare meurt, ouais. Il ne vient même pas à l'enterrement, mais il attend 4 jours. Humainement parlant, c'est presque insupportable. Mais on voit ces femmes qui vont presque écourter la distance, qui courent vers Jésus. Et il y a un détail chez Jean qui dit que lorsque Marthe dit « Oui, Seigneur, je crois. » C'est l'évangile de Jean. Ça veut dire qu'elle a la vie, croire avoir la vie. Tout de suite, elle sort de la scène, elle va murmurer à sa sœur, « Le maître est là, il t'appelle. » Jésus ne lui a jamais dit, « Va appeler ta sœur. » Non. Et un autre détail, c'est que Jean nous dit, lorsque Marie arrive, Jésus était au même lieu où il avait rencontré Marthe.
Ah, extraordinaire. Oui.
Elle l'amène, sa sœur, au lieu où elle-même, elle a bu à la source, ce qui l'a fait vivre. Non, elle veut faire vivre sa sœur de l'expérience qu'elle a vécue.
Et dans votre livre, Sœur Marie Philomène, donc vous avez parlé de la Samaritaine. Et en fait, il y a, vous nommez plein de rencontres, un certain nombre de rencontres de Jésus avec des personnes. Donc, c'est l'aveugle de Jéricho, c'est Marthe et Marie, vous l'avez dit, Simon le pharisien, le jeune homme riche, les disciples d'Emmaüs, Adam et Ève. Alors là, évidemment, ce n'est pas une rencontre de Jésus. Donc, c'est un dialogue de Dieu avec Adam et Ève, Agar l'Égyptienne aussi. Mm-hmm. Et ce sont toutes ces personnes qui se laissent rencontrer, qui se laissent toucher par Dieu ou par Jésus et qui se mettent en chemin. Et nous allons voir comment. Alors, je vous propose de commencer tout simplement par la Samaritaine, puisque à chaque fois que Jésus rencontre un homme ou une femme, on va voir comment son approche ne se contente pas d'un simple épanouissement personnel, mais ce que vous dites dans votre livre, comment cette rencontre est un réel cheminement vers une plénitude existentielle. Alors, commençons par ce dialogue avec la Samaritaine. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce dialogue et comment Jésus fait progresser finalement, comment il l'accompagne comme un coach, mais plus qu'un coach, on a bien compris, cette femme?
Ce serait peut-être important de dire d'abord qu'on présente Jésus comme celui qui a marché.
Oui, c'est vrai.
Vers un puits, il arrive fatigué, il s'assoit.
Il a chaud, il a soif.
Exactement. La femme aussi fait une démarche. Elle marche, elle vient vers le puits. Juste noter que suivre Jésus, finalement, c'est se mettre dans un processus. Jésus est continuellement sur les routes en train de marcher. Et c'est pourquoi je ne peux pas faire l'expérience de Jésus tant que je ne décide pas de me mettre en route. D'où parfois, je dis, et ça peut heurter, ça peut être dangereux de se contenter de dire « j'ai la foi ».
Oui, c'est une foi active.
C'est une foi active. Mmh. C'est ce quelque chose de Dieu en moi qui m'oblige presque à me lever et à me mettre en route. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend le processus du coaching qui va dépasser le coaching humain? C'est que dans le respect, c'est Jésus qui provoque la discussion, parce que cette femme n'aurait jamais osé adresser
la... Oui, c'était pas conforme aux pratiques et à la bienséance, en tout cas.
Exactement, et l'étonnement de la femme le montre. Et Jésus ne lui demande autre chose que ce qu'elle porte déjà en elle. Elle est venue chercher de l'eau, et Jésus lui demande ce qu'elle a. « Donne-moi à boire. » Et ça déclenche tout. Et on va
Donc
voir...
Il se met à son niveau.
Il se met à son niveau, la discussion s'engage, et ce qui est intéressant dans la progression de cette discussion, c'est qu'à un certain moment, on se rend compte quand même que Jésus veut stopper quelque part. Quand il lui dit « va chercher ton mari », mais c'est comme si cette femme n'a pas envie de quitter cette discussion, de partir. Lui, « j'ai pas de mari », c'est presque une réponse lapidaire, non ? Et donc, à partir de ce moment-là, il y a comme un déplacement de la scène qui fait que cette femme qui avant dit presque « mais pourquoi tu me parles ?» demande à boire. Non? Et il va y avoir comme un va-et-vient entre deux soifs. Parce que la femme lui dit « mais donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif, pour que je n'ai plus besoin de venir ici. »
Oui, oui, c'est d'abord un intérêt matériel de ne plus avoir à puiser de l'eau.
Exactement. Et quand Jésus parle de cette eau vive, la dame reste dans sa connaissance. On sent une femme cultivée. Si tu me donnes de cette eau, mais tu devras me dire, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a fait puiser ce puits, etc. Mais d'où tu la tires aussi cette eau? Non. Souvent, on présente les femmes de la Bible comme bon, en silence. Celle-ci, elle parle.
Oui, elle réagit. C'est extraordinaire. Aux paroles de Jésus. Non. Ouais.
Et progressivement, de cette soif d'eau pour ne plus venir à ce puits, cette femme se sent touchée de l'intérieur. Non? Elle sait que celui qui lui parle connaît son histoire et ne la juge pas. Hmm. On sort du niveau humain. Comme coach humain professionnel, c'est difficile parfois de rester neutre. C'est difficile parfois de ne pas avoir un regard quand même qui dit « Waouh, waouh !» Mais il a vécu ça. Jésus n'est pas à ce niveau. Jésus garde une perspective, annoncer le royaume et amener, l'accompagner à cette perspective du royaume. Donc, il ne se préoccupe pas de tout ce qu'on dit. Au contraire, tout ce qui est dit autour sert à cette annonce de la bonne nouvelle.
Et d'ailleurs, il l'appelle femme et pas samaritaine.
Et c'est extraordinaire. Ouais. Et femme, comme ben, il appelle sa mère femme.
Oui.
Et on sait que dès le début de la Bible, les métaphores bibliques, femme, c'est Ève. Et Ève, ben, c'est la mère de l'humanité. C'est celle qui donne la vie. Et donc, dans le processus humain, Jésus redonne une certaine forme de dignité parce qu'il vient rappeler à la femme son identité première, le don de la vie. Et à partir du don de la vie, tous les mouvements de cette femme vont juste aller chercher des personnes pour comme distribuer quelque part cette vie qui se réveille en elle, qu'elle porte et qu'elle veut donner en abondance, comme Jésus lui-même est venu donner cette vie.
Et donc finalement, la Samaritaine ressort de son entretien avec Jésus, évidemment pas comme elle l'a été entrée. Quel est le déclic finalement dans sa vie?
Mais le déclic, c'est déjà qu'elle sort de cet enfermement, non, où elle était cadrée sous un nom, Samaritaine, où on sait la signification dans un contexte, quand même une vie peut-être pas très catho, on dirait aujourd'hui.
Une vie dissolue, oui, avec cinq maris en tout cas. Oui.
Exactement. Elle sort de ce stade et ce qui se passe vers la fin de la scène, parce que ceux qui vont être touchés, non, ce qu'ils ramènent à Jésus, vont quand même se permettre de lui dire « Ce n'est pas à cause de toi qu'on croit. » Non. Mais pour la Samaritaine, elle reste dans l'essentiel. Que ces gens croient parce qu'ils ont entendu Jésus ou qu'ils croient parce qu'elle a fait la démarche, l'essentiel pour elle, elle est au niveau de Jésus, ils croient. Mmh. Et pour l'évangile de Jean, la perspective théologique, c'est que vraiment, quand on croit, on a la vie. Elle est au même niveau d'annonce que Jésus.
Alors, autre même niveau, si je puis dire, c'est cette rencontre de Jésus avec Zachée. On se souvient de cette histoire. Zachée étant de petite taille, il monte en haut d'un sycomore. La rencontre commence par un accompagnement classique, l'accueil de la personne, la définition de sa problématique qui requiert une écoute attentive et active. Donc là, jusque-là, on est sur des principes de coaching habituels. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est spécifique dans la rencontre de Jésus avec Zachée, sœur Marie-Philomène?
La première chose que je dirais, c'est le jeu de regard. Non. Jésus s'arrête et regarde Zachée. Zachée rencontre le regard de Jésus. Et si on fait un lien avec l'autre côté, l'Ancien Testament par exemple, mais l'histoire de l'humanité, la métaphore qui est donnée, commence par un regard. On se rappelle Ève, qui regarde, qui désire un fruit. Et tout part du regard, en fait. Comme pour dire, ben, notre manière d'habiter le monde, notre manière d'habiter, d'incarner notre vie, passe par le regard. C'est parce que je regarde que je passe à l'action. Donc, première phase, c'est ce regard. La deuxième phase, c'est que Zachée est appelé par son nom. Comment Jésus le connaît? Qu'est-ce qu'il connaît de son histoire? Et puis, une troisième phase, toujours qui nous déplace, c'est peut-être l'ordre qu'il donne. Le coach n'est pas là pour dire fais ceci, fais cela.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Non. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Et donc...
Il lui demande de descendre de l'arbre aussi. Descends vite.
Exactement, ouais. C'est l'ordre.
Ouais, c'est ça.
C'est l'ordre. Un coach ne donne pas forcément de l'ordre. Un coach suit. Mais Jésus, en même temps qu'il suit, utilise des mots, fait poser des démarches qui font le déplacement progressif.
Qui mettent en mouvement.
Et donc, aujourd'hui, introduit déjà Zachée dans l'aujourd'hui de Dieu.
Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi.
Ouais. On sait que Dieu n'a pas hier. Dieu n'est pas dans une projection du passé. Le kairos de Dieu, l'aujourd'hui de Dieu, c'est pratiquement cette totalité qui fait l'usage du deuxième mot, demeurer. Dieu qui veut établir sa demeure avec nous. Et le royaume, c'est tout simplement ça. Être là où Dieu est. Et non pas dans un espace établi, mais dans une manière d'être, dans une manière d'habiter sa vie, son aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, si je parle de déplacement à partir du regard, à partir de cette descente, de ce contact avec le sol, c'est-à-dire la réalité qu'il est lui-même. Et toujours, on se rappelle, non, l'écho, la résonance avec l'Ancien Testament. On se rappelle Adam avec cette injonction, va travailler la terre. Non. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que quelle que soit cette démarche de Jésus, la résonance va toujours se trouver dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi dans le livre, vous allez voir que je commence par Jésus, le Nouveau Testament, avant de parler de l'Ancien Testament. C'est que si je reviens à Zachée, ce sol va aller rappeler Adam, non? Va travailler la terre. Le lecteur se rend compte que le travail de la terre qui est demandé à Adam, c'est une manière de lui dire arrête d'accuser les autres parce que tu es tombé.
Oui.
Non? Va faire comme moi j'ai fait. Dieu le premier a travaillé la terre et il a fait sortir une œuvre merveilleuse qu'est Adam. Au moment où il tombe, il lui dit va travailler la terre, va faire comme moi parce que tu es digne de quelque chose d'autre que d'accuser des personnes. Accuser, non, ça n'a jamais...
Oui, trouver des excuses en fait.
Exactement.
Pour ne pas avancer. Ouais.
Et puis... L'auteur qui continue quand même à méditer le texte et qui regarde Adam se dit, mais finalement, va travailler la terre, c'est va te travailler toi-même. Tu es terre. Non? Va toucher la terre. Zachée, descend pour toucher le sol, toucher cette terre qu'il est lui-même. Et c'est à partir de ce contact avec le sol qu'un chemin peut s'ouvrir.
Oui, finalement. Et puis Zachée comprend que finalement, il n'est jamais trop tard pour prendre la direction du royaume.
Et c'est extraordinaire. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui
qu'il
que
veut faire
tout
en nous
peut
sa
commencer.
Demeure.
Voilà, qu'il veut faire en nous sa demeure.
Un dernier mot sur ces deux passages de la Samaritaine et de Zachée, puisque vous écrivez, Sœur Marie-Philomène, dans votre livre, que le coach ne s'engage pas. Vous nous avez dit, il ne donne pas des ordres. Hein. Il aide à clarifier les valeurs et les besoins et il favorise l'adoption de changements positifs. Il se concentre sur l'objectif. Comment la mission de Jésus dépasse ce simple rapport d'accompagnement?
Parce qu'on sait que Jésus est Dieu. Quand Jésus vient à notre rencontre, il sait de quoi nous sommes faits. Mais en même temps, il ne s'impose jamais à nous. Ça veut dire que Jésus, en fait, n'a pas de solution toute faite pour nous. Et ça peut nous amener à aller revisiter nos manières de prier et tout. Il ne va pas, comme par un coup de baguette magique, venir solutionner. Non, Jésus est là pour nous aider à descendre au fond de nous-mêmes et pour aller puiser les sources que nous portons en nous et pour faire avec nous le chemin. Non? Et en cela, il dépasse vraiment un coach, le coaching habituel oui. Que nous connaissons. Non? Peut-être ce que je dirais vraiment de Jésus, c'est celui qui respecte profondément notre processus humain. Il sait ce qui est bon pour nous, il ne nous obligera jamais. Et en cela, il est extraordinaire parce que quand on sait, on a envie de dire « mais c'est ça, fais ça ». Mais lui, il respecte. Oui. Et même si nous choisissons autrement que ce que lui, il voit, que il accompagne, il nous accompagne là où nous en sommes. Mm.
Vous nous avez présenté, Sœur Marie-Philomène Diouf, deux personnages qui ont été transformés par Jésus, donc la Samaritaine et Zachée. Je vous propose de marquer une pause. Vous nous direz juste après quel coach est Jésus avec... enfin, plutôt, quel coach est Dieu dans ce cas-là avec Moïse et Jonas, pardon. Nous écoutons le concerto BWV 1065 Allegro pour quatre pianos de Jean-Sébastien Bach avec David Frey au piano principal.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Jésus, l'accompagnateur selon la perspective du royaume, le référent de tout coach. C'est le titre du livre de Sœur Marie-Philomène Diouf, qui est religieuse de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Vous nous avez dit, Sœur Marie-Philomène, comment Jésus avait accompagné la Samaritaine et puis Zachée. Vous nous avez montré comment le Seigneur est lui-même le parcours de transformation de la personne. Et vous nous avez aussi dit... comment Dieu s'adapte à la situation de la personne. On va regarder maintenant Moïse et la façon dont Dieu le fait avancer dans la confiance et l'abandon. Et justement, dans cette question de l'adaptation de Jésus ou de Dieu à la situation de la personne, on voit qu'il y a vraiment une progression. Par exemple, avec Jésus, quand il appelle les disciples sont des pécheurs, et il leur dit, vous serez des pécheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de Moïse, sur cette situation de départ?
Alors, sur la situation de départ, on pourrait se rappeler de Moïse qui voulait défendre un hébreu.
Oui, un de ses condisciples, c'est ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il voit qu'on les maltraite, le sang est assez fort.
Là, il est encore en Égypte.
Il est en Égypte. Il veut sauver son frère. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu vient à sa rencontre et qu'il s'ouvre à cette rencontre, Moïse ne sauvera plus un seul frère. Il va sauver un peuple. Et si on reste sur la pédagogie de Dieu, tout part de la curiosité de Moïse.
Avec le buisson ardent, justement.
Avec le buisson ardent. Il n'a jamais dit, « Ah, qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais aller rencontrer Dieu. » Non, Moïse dit, « Pourquoi ce buisson brûle sans se consumer ? Je vais aller voir la curiosité. » Et Dieu va justement s'appuyer sur cette curiosité. Et quand il vient, il utilise exactement le même verbe, « J'ai vu ». Moïse dit, « Je veux aller voir. » Dieu arrive et lui dit, « J'ai vu la misère de mon peuple. » À la fin de la scène, on peut se demander, mais est-ce que finalement Moïse sait pourquoi ce buisson brûle sans se consumer? Non.
Non, en fait.
Oui. Nous, les lectrices, nous ne savons pas non plus. Nous savons juste une chose, quand il sort de là, il voit ce que Dieu voit. Toute sa préoccupation tourne maintenant autour de comment il va retourner pour sauver ce peuple.
Et comment il va être légitime, finalement.
Exactement.
Et Dieu lui demande d'abord de retirer ses sandales. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si on reste dans le processus du coaching, c'est peut-être déjà une manière de revenir à lui-même. Entre en toi-même. Non? On parlait tout à l'heure du contact avec le sol. C'est vraiment une trame biblique. Ôter ses sandales, c'est aller chercher de nouveau le contact avec le sol, le contact avec soi-même, le contact avec la réalité. Parce que, qu'on se rappelle que Dieu s'est incarné pour avoir ce contact avec l'humain, être humain. Et c'est seulement à partir de ce contact avec l'humain, Jésus qui s'adapte à nous, qu'on peut parler éventuellement de la perspective du royaume.
Et c'est aussi se dessaisir de ses fausses certitudes.
Exactement. Et c'est ce qui peut-être guette toute la démarche croyante. Souvent, on va à Dieu avec notre idée de Dieu. Le processus qui est proposé dans ce livre, c'est comment progressivement lâcher prise de ces idées que nous avons sur Jésus, sur le Dieu de l'Ancien Testament, etc., pour laisser finalement Dieu parler de lui-même. De la même manière qu'il s'adapte à nous pour nous élever à lui, mais nous, quand nous allons à lui, comment faire ce détachement de nos certitudes pour laisser Dieu nous dire qui il est et comment il choisit, lui, de cheminer avec nous.
Vous dites, Sœur Marie-Philomène, que Moïse voulait voir ce buisson ardent et essayer de comprendre pourquoi il brûlait sans se consumer. Et Dieu se met à sa portée en disant « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Et puis après, Moïse cherche une légitimité. Il essaye de voir comment il va pouvoir expliquer aux Égyptiens, aux
Hébreux,
voilà, à Pharaon, qui va délivrer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et là, Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Qu'est-ce que ça dit de la posture de l'accompagnateur, justement?
De l'accompagnateur, il y a quand même cette phase de rassurer la personne. La phase d'accueil, non, quand quelqu'un, normalement, quand un client, entre guillemets, vient te rencontrer, la manière d'accueillir cette personne, si elle est rassurante, on met du coup la personne accompagnée sur une posture de confidentialité. La personne est disponible pour s'ouvrir. Non, je serai avec toi bien avant. Dieu se définit quand même comme celui qui est.
Eh oui.
Je suis. Et on retombe sur le présent de l'aujourd'hui. Aujourd'hui avec Zaché, par exemple, dont on a parlé, etc. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Non, je serai de Dieu en sachant qu'il est dans son kairos, il est le présent, mais ramène toujours à cette réalité d'un Dieu qui est là, tout simplement, aujourd'hui, au niveau où j'en suis et qui est prêt à faire le chemin avec moi. Dieu ne sera jamais dans une, je sais pas, dans une perspective futuriste. Non, ce futur qui est un aoriste, quand on voit lire les textes dans leur langue originale, c'est vraiment le présent de Dieu aujourd'hui qui fait chemin avec nous. Non, les coachs que nous sommes, on a un peu tendance parfois à prendre le temps de revenir sur le passé, de vouloir comprendre pour mieux accompagner la personne. Ce passé sera toujours pour Dieu une manière d'aider la personne à prendre conscience de qui il est et du chemin qui lui reste à faire. Dès que je prends conscience de là où j'en suis aujourd'hui, ben, je peux décider. Et c'est pourquoi les rencontres avec Jésus, les rencontres avec Dieu sont toujours des moments de décision pour un passage. Et c'est pourquoi je parle quelque part de Pâque. C'est une Pâque parce qu'on n'en sort jamais comme on y est entré, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi dans cette façon de revisiter le passé, ça n'est pas pour y rester.
Non.
C'est vraiment pour apprendre à se connaître et puis avoir un chemin de transformation.
Exactement, parce que ce soit Jésus, Dieu, il n'enferme jamais quelqu'un dans un passé. J'aime bien l'exemple du bon larron, celui qu'on appelle le bon larron. Donc, quand il dit à Jésus, souviens-toi de moi, qu'est-ce qui revient le aujourd'hui? Pourtant, il pouvait bien dire, ah mon gars, c'est quand même facile hein, avec tout ce que tu as fait. Mais non, non, c'est l'unique personne canonisée par Jésus sur cette terre. Un assassin des grands chemins. Il a reconnu qu'il est à sa place sur cette croix, puisqu'il dit, pour nous, c'est normal.
Oui.
Non? Mais voilà, Jésus ne fait pas de compte à rebours sur ce qu'on a fait de mal. Et c'est pourquoi rester là à pleurer sur notre passé, je n'ose pas dire que c'est une perte de temps royale. Ça nous vole l'instant présent. Dieu est dans son présent. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de cet aujourd'hui et de décider de marcher.
Oui.
Et il est là.
Et il est là. Dernière rencontre du Seigneur que nous allons voir avec vous, Sœur Marie Philomène, c'est celle de Dieu avec Jonas, un dialogue. Et vous écrivez que le coaching commence par ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu fait qu'il ne faut pas faire?
Mais il donne des ordres.
Eh oui.
Non. Lève-toi, va à Ninive. On se dit, mais qu'est-ce que ce texte vient faire dans le cadre d'un coaching? Mais bon, quelque part, je dis que si vraiment dire non est une compétence, ben Jonas a cette compétence. Parce qu'il se lève, ben le lecteur pense que, mais il fait ce qu'il veut finalement.
Il se lève, mais il ne va pas à Ninive.
Il ne va pas à Ninive. Mm. Non? Et de manière très cohérente avec lui-même, ben il explique aux gens qu'il est envoyé, mais il ne veut pas y aller. Et donc, s'il y a cette tempête, c'est à cause de lui. Extraordinaire.
Oui, il assume complètement.
Il assume. Oui. Il assume. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que le chemin peut se faire. Ça ne sert à rien de cacher la vérité et de se cacher la vérité. Non? plus on est vrai avec soi-même, plus on est dans cette démarche de cohérence qui nous fait aller au-delà de nous-mêmes. Et c'est ce qui arrive à Jonas. Non ? Il y a un premier échec, entre guillemets, parce qu'il suit son instinct. Mm-hmm. Et on va se rendre compte qu'après, il y a comme un retour à lui-même, puisqu'il décide quand même, quand l'histoire de cette baleine, il arrive.
Bah, il reste quand même 3 jours et 3 nuits dedans, donc c'est un temps de maturation, on peut dire.
Exactement. Ouais. C'est un peu comme, enfin, en tout cas dans notre credo, on va dire qu'il est ressuscité le troisième jour. Et puis, on sait quand même que, bon, est-ce que Jésus va rester là pendant 3 jours, à attendre? On sait que non, puisque le credo lui-même nous dit qu'il est descendu aux enfers. Ben, ça veut dire que pendant ces 3 jours, quelque chose s'est passé. C'est juste qu'au bout de 3 jours, les femmes sont allées au tombeau et ont remarqué qu'il n'est plus là. Mais ça ne veut pas dire, non. Un peu comme l'histoire de Jonas. C'est toujours ces métaphores qui vont aller dire qu'il y a un temps de maturation pour que la personne puisse atteindre un certain niveau qui lui permette de rencontrer Dieu dans sa manière de se dire, accueillir Dieu tel qu'il nous arrive à nous et non plus nous comme nous décidons d'aller vers lui.
Mmh. Alors finalement quand même, après cet épisode dans la baleine, Jonas se convertit, Jonas part à Ninive et Ninive se convertit, oui. Mais le prophète est quand même encore en colère contre Dieu et il ne comprend pas finalement la miséricorde de Dieu alors qu'il a une image d'un Dieu qui punit peut-être. Comment le Seigneur le conduit au-delà de lui-même?
De bout en bout, ce que Jonas aurait souhaité, c'est que Dieu soit comme lui. Mm. Il veut être quelque part la mesure de Dieu. Il veut que Dieu puisse punir comme lui. Il pense, tu fais le mal, tu gagnes le mal, entre guillemets. Tu fais le bien, tu gagnes le... Ils ont péché, qu'ils soient punis. Non? Et l'accompagnement de Dieu va amener Jonas non pas à une réponse, parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va décider. Le texte reste ouvert, mais on sait qu'il fait un chemin. Non? Et puisqu'on dit que Dieu continue à faire le chemin, on espère qu'un jour, Jonas reviendra à lui-même. Mais ce qu'on voit, c'est que même quand le Seigneur fait ce chemin où on pense que Jonas s'est converti parce qu'il prêche, etc., il n'en est pas grand-chose puisqu'il s'assoit pour voir le résultat. Et il n'est pas du tout heureux de voir le résultat. Il est plutôt heureux pour un raisin qui pousse et qui lui donne de l'ombre.
Oui, c'est ça.
Imaginez un peu le décalage entre un peuple qui revient à Dieu, il n'exprime pas trop de joie, mais pour un ricin qui pousse et qui lui donne
de l'ombre.
Mais une joie éphémère, il est heureux. Et ça ne dure pas longtemps.
Et bien justement, Dieu va va mettre un petit verre dans ce ricin et le ricin va se dessécher.
Et nous sommes encore dans la pédagogie de Dieu.
Ouais, c'est ça.
Il ne force pas Jonas à revenir à lui. Il agit sur les forces de la nature, un peu comme Job, etc. Et qu'est-ce qui se passe? À partir d'une réalité qui est là, Dieu fait faire un chemin de prise de conscience. À la fin, on ne nous dit pas « Ah oui, il s'est converti ». Et je trouve ça extraordinaire pour nous. Pour nous, Dieu veut que nous revenions à lui. Mais en aucun moment, il n'y a d'obligation de contraindre.
Il ne force pas.
Non, il veut toujours faire le chemin avec nous. Ça veut dire que, quelque part, la conversion n'est jamais une réalité acquise. Quel que soit là où nous en sommes, nous sommes en chemin. On a ouvert l'émission un peu avec ça. Ce n'est pas pour rien que Jésus est continuellement en chemin. Dieu est continuellement en route avec nous. Et ce qui est extraordinaire aussi, je trouve, c'est que j'aime ce Dieu qui n'a pas un programme préétabli.
Ah oui, il n'y a pas de prédestination.
Non. Il marche et son programme, quelque part, c'est nous. La personne qui va être sur son chemin et le désir de cette personne d'entrer en relation, de faire route avec lui. Mmh. Et pour moi, l'accompagnement, c'est un peu ça.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Et puis, on termine par cette prière de Jonas. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant, mes yeux t'ont vu.
Comme Job,
oui.
C'est extraordinaire. Et puis, c'est tout le chemin de l'expérience. Non? Des personnes ont parlé, oui, mais qu'est-ce qui est important? L'expérience que je fais moi-même de cette rencontre.
Voilà, nous restons sur ces paroles qui nous feront certainement avancer. Merci beaucoup, sœur Marie-Philomène Diouf. Je rappelle le titre de votre livre, Jésus l'accompagnateur selon la perspective du royaume, le référent de tout coach, un livre qui met en scène de nombreux dialogues, soit entre Jésus et des personnes, soit entre Dieu et d'autres personnes dans l'Ancien Testament. Et un livre, en tout cas, qui fait grandir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Isabelle.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.